Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, à mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel, tu vois, parce que genre, t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM.
Et nous sommes en compagnie de Willy Kayser. Salut Willy.
Salut Bruno.
Donc c'est toi qui vas nous proposer cette nouvelle émission sur Divergence FM, Ni Bu Ni Connu. Alors ça, bon, le titre est un peu évocateur. Ça va parler de quoi?
Je pense que ça va parler de vin.
De vin?
Tu t'as bien compris que ça va parler de vin, ouais.
Donc là, on est ensemble pour enregistrer, alors on ne vous cache rien, chers auditeurs, ce qu'on appelle le numéro zéro, le pilote que vous écoutez. Et c'est une façon un petit peu de vous présenter l'émission. Alors c'est une émission qui va tourner autour du vin, mais pas que, autour du monde du vin. C'est bien ça, Willy?
Oui, effectivement, l'objectif c'est de parler du monde viticole à dominante Languedoc, hein, parce qu'on est à Montpellier, oui, capitale du Languedoc, mais également du vin au sens large, parce que bah, Montpellier c'est aussi... pour moi la capitale du vin en France,
ouais.
Et je donnerai tous les arguments par la suite et Dieu sait qu'il y en a.
Alors Willy, explique-nous, alors, parce que tu viens nous parler de vin, donc on se dit que tu dois travailler dans le monde du vin, explique-nous un petit peu ton parcours qui t'a donné envie de venir expliquer ça à nos auditeurs.
Alors moi j'ai une première partie de carrière, bon je vais parler 2-3 minutes de ma vie pour que tout le monde comprenne bien qui je suis. Voilà, j'ai une première partie de carrière dans le financement d'entreprise et j'ai très vite compris que c'était pas fait pour moi. Voilà, le costume cravate, la voiture de fonction et les horaires de bureau à Paris. Donc j'ai très vite bifurqué à la fin des années 2010 dans le monde du vin.
Ouais.
Et je suis un hybride, moi, dans le monde du vin. C'est-à-dire que, voilà, être salarié dans une structure, c'est pas fait pour moi, donc je suis un indépendant. Mmh. Et j'ai plusieurs casquettes. La première, c'est que je suis, voilà, auteur, journaliste indépendant, pour différents médias assez connus dans le vin, dont le plus célèbre est Terre de Vin. Mais je suis aussi à mon compte avec mon propre média, Ni Bu Ni Connu, le nom de l'émission qu'on va d'ailleurs mettre ensemble sur Divergence FM. Et... une dernière partie où j'accompagne des domaines viticoles, entre guillemets, dans le besoin, des domaines qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un photographe, une agence de communication ou presse, et je vais les aider à se structurer, je vais les aider à créer du contenu et à les mettre sur les réseaux sociaux pour développer leur image de marque.
D'accord. Alors, ok, on a compris, le costard cravate, ça te plaisait pas, la voiture de fonction, ça te plaisait pas, mais pourquoi s'être dirigé vers le vin? D'un coup, est-ce que c'est une histoire familiale? Parce que souvent, en fait, c'est ce qu'on va se rendre compte au travers de cette émission, c'est que le vin, c'est une histoire.
Eh ben, moi, j'ai une de mes racines du côté de paternel qui est en Champagne. Mmh. Même si j'ai jamais été trop fan de bulles et de champagne, il y a forcément un lien familial par rapport à ça. Puis après, effectivement, des parents qui ont, entre guillemets, ce sont des bons vivants. Et je me suis rendu compte que à chaque fois que j'allais en week-end avec des amis, j'allais toujours voir un domaine le week-end. Ouais. J'enquiquinais mes potes à leur dire, venez, on va découvrir tel ou tel domaine. Et au bout d'un moment, j'ai senti vraiment que, je sais pas, j'avais une appétence et des compétences qui commençaient à monter. Donc je me suis lancé dans des formations pour apprendre à déguster comme un professionnel. Et ensuite une formation pour voir comment cultiver de façon moderne et d'avenir avec les nouvelles pratiques agroécologiques.
Oui, parce que c'est ce qu'on va voir au travers de cette émission lors de cette nouvelle saison sur Divergence. C'est que les pratiques du vin ont changé.
Les pratiques du vin, elles changent plutôt.
Oui,
c'est pas qu'elles ont changé.
Oui,
ouais.
Elles sont en train de changer.
Elles sont en train de changer doucement, mais il y a vraiment, et dans le Languedoc, on le verra, beaucoup, beaucoup d'entreprises viticoles qui sont motrices en termes de pratiques agroécologiques, hein, de pratiques du futur. Donc des pratiques adaptées, évidemment, aux nouvelles tendances, mais aussi des pratiques adaptées ou qui vont s'adapter au changement du climat et à tous les aléas qu'on va pouvoir, qui touchent aujourd'hui le monde agricole.
Mmh. On laissera aussi une grande place aux femmes dans cette émission.
Alors, il n'y a pas d'agroécologie et de pratique agroécologique sans justice sociale. Mm-hmm. Bon, bah, comme vous le voyez, je suis un peu à gauche. Mm-hmm. Et il n'y a pas de justice sociale sans... pour moi, inclure au maximum le peuple féminin, on va dire, au même niveau qu'un homme. Mmh. Donc oui, on donnera la parole aux vigneronnes aussi, hein, mais surtout aussi aux vigneronnes, bah, pour qu'elles nous parlent de leur histoire, mmh. De leur quotidien, de leurs difficultés également, et surtout bah, de leur passion, le vin. Mmh.
Alors le vin, justement, parlons-en. Toi, tu t'es beaucoup dirigé vers le côté bio du vin. Pourquoi pas parler de tous les vins et plus spécifiquement du côté bio ?
Bon, je vais faire une réponse un peu bébête, mais il y a énormément de domaines viticoles en France. Mmh. Je ne parle pas du monde, mais déjà en France, on est le pays du vin. Et donc on va dire qu'il y a 80 000 entreprises viticoles qui sont dans la prod, dans ouais. la production, qui ouais. font du vin. Mmh. Ça fait quand même beaucoup, d'accord ? Sachant que chaque entreprise viticole crée 10-15 cuvées, ça fait encore plus ouais. de vin à parler. Donc déjà, bah, le bio, ça réduit un peu, on filtre.
Ouais.
Ensuite, moi je me suis toujours dit, avant de savoir que le bio existait, hein, j'étais un peu neuneux il y a 10 ans, que tous les vins sont pour moi naturels. Pour moi, un vin, c'est la naturalité par excellence. Mmh. C'est du raisin qu'on va presser. Et ça fait de l'alcool. Ouais. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était pas forcément le cas, qu'on y mettait, comme dans l'agroalimentaire, beaucoup d'additifs, ouais. D'intrants, entre ouais. guillemets, pour transformer ce jus. Et je me suis rendu compte que c'est pas du tout dans mes valeurs. Je trouve ça plus beau des domaines viticoles en bio qui mettent le moins d'intrants possible. Mmh. Et s'ils en mettent, bah, des intrants, entre guillemets, œnologiques, à base de plantes, enfin, en tout cas moins de synthèse, moins des produits de synthèse. Voilà. Et ensuite, la deuxième étape, c'est, je pense qu'on a été beaucoup trop loin dans tout ce qui est vraiment pesticides de synthèse, mécanisation ouais. à outrance, et qu'aujourd'hui, on y revient, et c'est bien de se diriger vers le bio, qui est la porte d'entrée vers l'agroécologie et les nouvelles pratiques. Mmh.
C'est une façon, au travers de cette émission, ni bu ni connu, on va parler de vin, mais on va parler aussi d'écologie, du coup.
On va parler d'écologie, on fera des parallèles avec la transition au sens large dans un pays occidental comme la France.
Et je pense que cette émission sera aussi l'occasion de parler de l'actualité du vin. Là, on sait que, par exemple, le gouvernement va permettre, en finançant cet arrachage des pieds de vigne pour éviter la surproduction. Ça sera l'occasion de parler de tout ça un petit peu aussi, cette émission.
Oui, on va parler d'actualité dans le monde du vin. On va mettre en avant les difficultés du monde agricole et plus spécifiquement viticole. Et oui, arrachage, difficultés pour les domaines en bio, puisque interdiction de produits à base de cuivre, ouais. Nouvelles personnalités qui émergent dans le monde du vin, actualité sur Montpellier et sa métropole. On essaiera voilà, de mettre dans chaque émission quelques rubriques actu vignoble français.
Alors Willy, tu m'as envoyé une grande liste avec plein de thématiques. Allez, est-ce qu'on peut brosser quelques-unes des thématiques phares qu'on pourra écouter tout au long de cette saison ?
Bon, déjà, je te remercie de m'avoir donné, entre guillemets, la parole, parce que c'est pour moi vraiment une façon de m'exprimer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je vadrouille très 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 souvent dans le vignoble. Les 10 derniers jours, j'ai été visiter 7 domaines viticoles dans le Languedoc. Cette semaine, je vais encore aller en voir 2. Et en fait, des sujets... des actus, enfin bref, j'en ai mais vraiment des tonnes et des tonnes. Donc qu'est-ce qu'on va voir ? Bah, moi j'aimerais qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, ouais. voilà, qui est encore aujourd'hui, après même beaucoup d'arrachage de vignes, le plus grand vignoble du monde. Hein, on est aux alentours des 200 000 hectares de vignes, c'est énorme.
Ce qui n'était pas le cas avant, parce que moi je me rappelle quand j'étais petit, quand on redescendait dans la région, nous on habitait plutôt du côté de Bordeaux, on nous disait mais le vin de la région il n'est pas bon.
Alors oui, il y a eu une montée en gamme, en qualité, à l'horizon des années 80, quand les caves coopératives ont commencé à s'éroder, c'est-à-dire les viticulteurs et les viticultrices ont commencé à moins rapporter en caves coopératives et à mettre en bouteille. Et puis, il y a eu de nouvelles personnes venues généralement des grandes villes, ce qu'on appelle les néo-vignerons, ouais. et qui ont commencé à faire du vin d'artistes. On pense évidemment à Domas Gassac, ouais. à la Grange des Pères, et ces domaines qui sont toujours célèbres aujourd'hui. Mais il y en a des dizaines et des dizaines aujourd'hui de vignerons et vignerons qui s'installent, qui se sont installés, mmh. et on va leur donner la parole, évidemment. Mmh.
Donner la parole aux vignerons. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu quand tu te rends. Mais alors ça, les auditeurs vont pouvoir s'en rendre compte au travers des petits reportages qu'ils pourront écouter dans cette émission. Comment ça se passe? Tu dis salut, moi c'est Willy. Bon, j'imagine que maintenant on te connaît un petit peu dans le monde du vin, mais comment ça se passe? Salut, moi c'est Willy. J'aimerais bien visiter votre chai. Comment ça se passe en fait? Parce que est-ce que c'est un monde fermé déjà, le monde des vignerons? Est-ce que c'est facile d'y rentrer? Explique-nous un petit peu tout ça.
Alors moi, je trouve que ce n'est pas un monde fermé de manière générale aujourd'hui, encore plus qu'avant.
Ouais.
Si vous voulez aller au domaine pour acheter des bouteilles, franchement, ils vous accueillent les bras ouverts.
Ouais.
Et les vigneronnes et vignerons vous raconteront leur histoire, ils le font très bien. Et pour ma part, c'est encore moins difficile de rentrer. Effectivement, j'ai, avec toute modestie, on va dire, je suis assez connu dans le monde du vin bio, au moins. Et ce qui me permet, quand je vais visiter un domaine, on m'accueille à bras ouverts, visite totale des vignes, ouais. Problématiques et histoires du domaine, dégustation. C'est quelque chose que je fais assez souvent et qui est vraiment très agréable. Donc oui, la porte est grande ouverte pour moi et ce qui me permet d'avoir plein d'histoires à raconter.
Alors parlons maintenant plus précisément du vin en lui-même. Un vin, comment ça choisit? Comment ça se déguste? C'est aussi ça qu'on va découvrir dans cette émission. Bien sûr, alors on est un média, on est bien obligé de dire la consommation d'alcool, oui, mais avec modération. Mais là, on est dans quelque chose de vivant avec le vin. C'est pas pareil que déguster une bouteille de gin, même s'il y a plein de gins différents. Là, le vin, quand même... Il y a une histoire derrière, il y a une histoire de famille, il y a une histoire de terre, une histoire de production. Comment ça se déguste un bon vin? Comment on trouve un bon vin?
Bon, déjà, attention, je connais des producteurs de gin.
On va ils faire sont pas contents.
Non. Mais oui, on va revenir à ce principe de naturalité du vin. Hein, on est quand même sur du jus de raisin fermenté, avec quelques additifs, mais ça reste quand même un produit naturel. Déguster, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, quand je donne des cours de vin, des ateliers de dégustation de vin, j'entends toujours ce frein. Ouais, mais nous on sait pas déguster, on n'a pas de nez, on n'a pas de palais. Mais la seule différence que vous avez avec un meilleur sommelier ou une meilleure sommelier 2, c'est que vous ne dégustez pas tous les jours.
Et oui.
Il ou elle déguste tous les jours.
Oui.
Mais on part tous du même postulat, c'est qu'on peut déguster, apprendre à déguster et bien déguster. Donc on le verra, hein, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure en entrée, Montpellier, capitale du vin, il y a beaucoup d'écoles en agronomie qui tournent autour du vin, beaucoup d'écoles de dégustation et de sommellerie ici. On donnera certainement la parole à des institutrices et des instituteurs spécialisés dedans pour nous raconter leur expérience, comment ils apprennent le vin à des élèves. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important de dédramatiser. Voilà. En quelques mots, dédramatiser, simplicité, sentir et goûter. Et en fait, ça va tout seul, il ne faut pas se prendre la tête.
D'accord. On dit souvent, on entend souvent en ce moment que le monde du vin, alors tu disais que dans la région c'était pas forcément le cas, mais le monde du vin va pas bien en ce moment, notamment parce que les jeunes ils boivent plus trop de vin, c'est des nouvelles formes de vin qui arrivent peut-être sans alcool aussi, est-ce qu'on en parlera aussi de ça?
Oui, on parlera des tendances de consommation, le plus important, et ça tient en une phrase, il y a trop de vignes par rapport à ce qu'on consomme. C'est la grande crise structurelle et non pas conjoncturelle.
Ouais.
C'est que vraiment, il y a trop de vignes, on ne consomme pas assez. Mmh. On est passé en 50 ans ou 100 ans de 100 litres par an et par habitant à aujourd'hui peut-être à presque 38-40.
D'accord.
Donc forcément, si on exporte moins, il y a trop de vin en France, c'est la crise.
Oui.
Et derrière tout ça se rajoutent les problèmes liés au climat, à la biodiversité.
La salinisation des sols aussi.
Exactement, et on, dans le Languedoc, on l'a subi proche du littoral. Donc oui, tous ces sujets-là, on les mettra sur la table. On donnera la parole à des spécialistes qui nous parleront du vignoble à l'horizon 2050-2100, à quoi il ressemblera, est-ce qu'il y aura, je sais pas, des pistachiers à la place des hectares de vignes dans le Languedoc. Bref, c'est un sujet qui est hyper intéressant et qu'on parlera dans l'émission.
Oui, et puis on pourra notamment parler de l'export. Là. On exporte aussi un petit peu moins peut-être parce qu'il y a de nouveaux chais qui se développent on pourrait parler de la Californie, en Chine aussi, beaucoup. Ils commencent à faire du vin pas mauvais, il paraît.
Du vin pas mauvais, mais très loin de notre niveau, on peut le dire quand même. Non, mais avec toute... je suis un peu chauvin, c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on était quand même à la mode, on est toujours à la mode, même si des pays comme l'Italie ou l'Espagne passent souvent devant nous en nombre de bouteilles produites. l'export, ça souffre à cause des guerres.
Ouais.
Et à cause de changements entre guillemets de régime, comme on peut le voir aux États-Unis. Mmh. Il n'y a pas un changement de régime, vous l'avez compris, mais on a une personnalité au pouvoir qui est assez tranchant sur le commerce international. Et quand il arrive au pouvoir il y a quelques mois, de mettre des taxes à droite à gauche sur divers produits qui vont du textile jusqu'à je sais pas moi, les nanotechnologies et compagnie, ça a une répercussion évidemment sur le vin, puisque quand des domaines ont envie d'exporter au Japon et que le Japon a une hausse de taxe de 40% sur tel ou tel produit, forcément les gens vont moins acheter de vin. Donc c'est surtout en fait l'arrivée du président Trump qui a bouleversé l'export en France, quoi.
On est quand même toujours le pays numéro 1 dans le monde du vin.
Alors ça dépend des années et ça dépend en termes de quantité. Ouais. Donc oui, on est le pays numéro 1 en termes d'histoire, en termes de prépondérance de culture vin dans les familles, dans les ménages. Après en termes de production pure, parfois c'est nous, parfois c'est l'Espagne, parfois c'est l'Italie, ça dépend du climat, des météos, des années en question.
Ça, tu vois, c'est, je l'apprends, l'Espagne. Je savais pas que c'était. Je savais qu'ils produisaient du vin, du bon vin. C'est notamment du vin beaucoup en terrasse aussi, je crois, qui se fait beaucoup. La qualité du vin en Espagne, elle est comment ?
Ouais, il y a des très très bons. Alors, je suis pas allé beaucoup en Espagne. Je n'y suis pas allé même. Enfin, en tout cas, visiter des domaines. Le peu que j'ai entendu parler ou vu dans les médias, oui, il y a des vignobles en terrasse, il y a des vignobles en plaine. Ils font de tout, comme nous, du vin de grande surface, très peu cher, moins cher que nous, et du vin très haut de gamme aussi, comme nous. Non, c'est un pays qui... c'est un grand pays du vin aujourd'hui, on peut pas le nier, en tout cas.
Et alors, dans Ni bu ni connu, cette nouvelle émission sur Divergence, est-ce qu'on pourra parler aussi, c'est à toi de me le dire, hein, peut-être que tu me diras non, de l'histoire du vin, de comment il est arrivé chez nous. Je crois que c'est avec les Romains que c'est beaucoup arrivé. Le vin était beaucoup moins alcoolisé que maintenant. Tout à l'heure, tu disais qu'un Français buvait je ne sais pas combien de litres par
100
an.
100 litres il y a un an, ouais.
Voilà. Et alors, j'ai une petite anecdote là-dessus. Quand on construisait le tunnel sous la Manche, par exemple, les ouvriers anglais avaient droit à 3 ou 4 tasses de thé par jour. Et les Français avaient droit à leur demi-litre de rouge par jour aussi. Donc c'était vraiment ancré. Mais le vin était beaucoup moins fort que maintenant aussi, peut-être, non ?
Alors, bon, il y a beaucoup de choses à raconter dans ce que
oui,
je viens de dire.
Vaste, là.
Mais voilà, je vais prendre 25 minutes maintenant, je vais tout te raconter. Non, mais oui, déjà, on va commencer par l'histoire viticole français et du Languedoc. C'est pas les Romains qui ont implanté la vigne en France. Il y avait déjà... apparemment des vignes que entre guillemets les Français, alors c'était même pas des Gaulois j'ai envie de dire à l'époque, avaient commencé à implanter, mais ce sont les Grecs qui ont apporté la vigne en France, et notamment avec le muscat qui est arrivé à Marseille, hein, donc c'est pour ça qu'on appelle Marseille la cité phocéenne. Et les vignes ont commencé à être implantées autour de l'étang de Berre, puis petit à petit sur le littoral. On a retrouvé des vignes évidemment à Latte, hein, vous pouvez aller au musée à Latara et comprendre
Henri Prade.
Exactement, pour comprendre l'histoire de la vigne dans le Languedoc, et on fera intervenir des spécialistes du sujet, j'en ai plein en tête. La deuxième question, c'était le vin. Oui, avant, le vin, il était, on va dire, à 6, 7, 8 degrés, avec du sucre et beaucoup d'acidité. En fait, le vin tel que l'on le déguste et le boit aujourd'hui, il n'a que 30 ans, 40
d'accord,
ans, tout au plus. Voilà.
Okay.
Dans les années 70, on a commencé à maîtriser la microbiologie des moûts et du vin, comprendre qu'il y avait une fermentation, puis une deuxième fermentation, et donc on a compris comment faire tout fermenter un vin pour arriver aujourd'hui à un vin sans sucre, un vin sec, avec beaucoup plus de puissance, d'amertume et d'alcool. Donc évidemment, il y a 100 ans, le vin rouge, c'était déjà produit en très grande quantité dans des régions comme le bassin parisien, l'Auxerrois ou l'Orléanais. C'était des vins à 8 degrés, avec beaucoup d'acidité et de sucre, et évidemment on pouvait le marier avec beaucoup plus facilement de la charcute, du fromage, le pain,
D'accord. Parce que bon, ça on parle de vin depuis tout à l'heure, mais il va falloir parler aussi qu'est-ce qui se marie bien avec le vin, qu'est-ce qu'on mange avec le vin. Et ça m'amène à ma question, les différents types de vins, le rouge, le blanc, le rosé, est-ce qu'il y en a d'autres, je sais pas. Et on parlera de ça justement, de comment, parce que c'est pas du tout la même façon de produire un vin rouge qu'un vin rosé ou blanc.
Ah oui, on va dire que c'est presque la même méthode, mais le blanc, on sépare la phase solide de la phase liquide. Voilà, c'est-à-dire qu'on va presser directement, tu vas avoir le jus et ça part en fermentation. Ouais. Le rouge, il y a un contact avec la peau, plus ou moins longue d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la macération, c'est ce qui donne la couleur et les tanins au vin. Et dans le Languedoc, on a la chance de faire toutes les couleurs. Donc, tu en as déjà cité, hein, les plus connus, blanc, rouge, rosé. Il y a aussi le vin orange, qui est un ancien vin inventé par, en Géorgie il y a 6000 ans, 6-8000 ans. Et on fait aussi de la bulle. Hein, on n'en parle pas souvent, mais il y a des vins effervescents à Limoux, qui est une appellation qui fait partie intégrante du vignoble du Languedoc. Donc on pourra en parler, faire intervenir des gens, des spécialistes de cette appellation. On fait aussi du vin doux naturel, hein, le fameux vin sucré. Hein, sur le littoral, à Muscat, à Frontignan, Bagnoul, c'est pas trop loin aussi. On pourra déguster ces vins, raconter comment ils sont faits, l'histoire de ces vignobles-là, justement.
Oui, et puis alors, on l'évoquait au début, en début d'émission, avant, c'était beaucoup de caves coopératives, où tous les vignerons du coin venaient, ont mélangé le vin. Et maintenant, ils se sont beaucoup plus déportés vers leur production personnelle, et ça a amélioré la qualité du vin pour toi.
Mais oui, en fait, fin 19e siècle, c'était la grande époque des négociants. Ouais. C'est-à-dire que les personnes qui avaient des vignes vendaient leurs raisins ou leur vin aux négociants qui, eux, se chargeaient de faire le vin et de le vendre. Après, tu as eu une énorme crise dans le monde viticole européen qui s'appelle la crise du phylloxéra. Je ne savais pas si tu en parler. C'est une petite araignée rouge qui a décimé, qui vient des États-Unis, qui a décimé, mais vraiment intégralement, le vignoble européen.
D'accord.
Donc on l'a replanté avec une solution qui s'appelle le greffage. Donc il y a un pied de vigne américain sur lequel on a greffé un pied de vigne français, une Vitis vinifera. Cette solution a été inventée par Jules-Émile Planchon à Montpellier d'ailleurs, à la fin du 19e siècle. Et en fait, de changer, ça a une énorme crise. Au bout d'un moment, on a du coup beaucoup produit en Algérie et parce qu'il fallait subvenir aux 150 litres par an et par habitant de vin. Mais quand le vignoble a été reconstruit, il y avait toujours, on va dire, des tricheries où les négociants faisaient venir du vin venu des colonies, notamment d'Algérie, en y mettant le nom vin du Languedoc. Donc on est arrivé à des énormes crises réprimées en 1907, d'ailleurs à Montpellier, Béziers, par Georges Clemenceau. Et on en est venu à créer justement à ce moment-là des caves coopératives pour réunir des viticulteurs et des viticultrices sous une même bannière dans des secteurs. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, beaucoup dans le sud de la France.
C'est un peu comme l'église au milieu du village. Dans tous les villages, il y a une cave coopérative.
C'est vraiment ça. C'est un lieu d'échange, un lieu de culture, un lieu où les familles se réunissaient. Et petit à petit, on en est venu à la création des appellations d'origine contrôlée en 1936. Et vers les années 80, ce modèle s'essouffle et a continué de s'essouffler jusqu'à aujourd'hui parce que les vins de cave coopérative sont des vins, même s'il existe des vins haut de gamme, mais ce sont des vins de grand public, de supermarché. Et on a, le pays du vin en France, eu une envie de créer et de boire des vins d'artisans, des vins d'artistes. Et c'est ce qui s'est passé notamment dans les terrasses du Larzac, au Pic Saint-Louis, partout en France. Et du coup, des personnes ont décidé de arrêter de donner leurs raisins à la cave coop pour créer leur propre cuvée.
D'accord.
Et ça existe toujours aujourd'hui.
C'est passionnant. Chers auditeurs, vous êtes bien dans l'émission Ni bu, ni connu. Là, on vous brosse un petit peu le portrait de l'émission, toutes les thématiques qui seront abordées tout au long de cette saison. Alors là, on a parlé du vin, et puis j'imagine qu'on parlera bien aussi de la distribution, des cavistes, parce que moi, je suis désolé, quand je vais chercher, à moins que je le connaisse le vin, mais quand je vais chercher un vin en supermarché, c'est pas la même chose que quand je vais le chercher chez mon caviste qui, lui, va me conseiller en fonction de ce que j'ai pris chez le boucher juste à côté, par exemple.
Le caviste, c'est l'élément central. C'est vraiment le lien entre la production, les vignerons et les vignerons, et le consommateur et la consommatrice. Donc tu auras toujours un conseil, tu auras toujours une histoire et un lien. Et en fait, plus tu vas chez le caviste, et puis tu n'es pas obligé d'aller chez le caviste pour acheter un vin hyper cher, tu as des vins abordables, mais généralement, les vins de caviste, c'est des vins d'indépendants. C'est pas des vins de grande quantité, donc c'est toujours mieux d'y aller pour découvrir vraiment des terroirs.
Moi, ça me fait un peu penser, c'est comme quand on va dans une librairie, dans une grande librairie, c'est pas pareil que quand on va chez son petit libraire qui prend le temps de nous conseiller.
Non, mais tu as totalement raison, c'est un bon parallèle. De toute manière, c'est le même sujet pour tout. C'est mieux d'aller chez un fromager pour acheter un fromage, c'est mieux d'aller chez un petit libraire qui connaît sa gamme, qui connaît les livres qu'il va te vendre. Après, tout est une question de moyens. Mmh. Moi, je ne juge pas les gens qui achètent du vin en grande surface. Mais je pense que c'est bien aussi de se dire, de forcer un peu les gens, de leur insinuer, aller chez le caviste quand même de temps en temps, parce que vous allez voir, c'est une sacrée expérience. Ouais. Donc, si, moi, je pense que si on a les moyens, c'est bien d'aller chez le caviste. Mmh. Et si on a les moyens de consommer bio, il faut le faire. Mmh. Voilà.
Consommer moins, mais consommer mieux.
C'est pour moi une très bonne phrase qui reflète finalement l'émission, quoi.
Eh bien, cher Willy, merci beaucoup. Ça sera un peu le mot de la fin de cette première émission. Alors là, on était tous les deux, mais après, je te laisse les clés du camion. C'est toi qui vas orchestrer tout ça. Et puis, cette émission, ni bu ni connu, c'est une émission que vous retrouverez toutes les semaines sur Divergence et évidemment dans sa rubrique podcast. Et on parlera, comme vous l'avez compris, du monde du vin en général.
Merci, merci Willy. À toi et à bientôt.
Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin ? De poésie ? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni bu ni connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel, tu vois, parce que genre, t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.